Le PSG recherche désespérément un leader. On a 23 joueurs. On a tout changé, on a tout cassé. On est reparti de zéro. Et toujours, on n'a pas de leader sur le terrain quand les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, ça va être le premier sujet. Mais on va parler également tactique. On va parler un peu mercato, notamment avec la possible arrivée d'un arrière-gauche. On est avec Dryas, Basto et Yarekoba qui va nous rejoindre. J'espère que vous allez bien, les amis. Donc, Dryas, je vais te lancer directement. Que faire pour résoudre ce problème de leader? Est-ce qu'il faut changer de capitaine? Est-ce qu'il faut recruter quelqu'un qui amènera du caractère? Est-ce que c'est quelqu'un qui est actuellement sur le banc, qui n'a pas de temps de jeu, qui doit remplir ce rôle et du coup devenir titulaire? Qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème qui nous pend au nez depuis des années?
Mais j'ai envie de te dire, enfin après c'est, je risque de déborder sur un autre sujet quand tu parles de Kimpembe, mais quel est l'impact d'avoir gardé une des têtes de l'hydre à deux têtes du passif QSI? On a eu un début de saison, on a eu l'illusion que quelque chose de nouveau se crée, et mine de rien, comme tu le dis, les démons nous rappellent, et c'est que quelque chose ne s'est pas passé. Il faut appeler un chat, hein. C'est normal de moins bien performer à l'extérieur, mais le différentiel de performance au Paris Saint-Germain est juste hallucinant, et je pense qu'il y a le poids mental du passé qui reste là, et tant qu'on gardera des joueurs qui ont participé à ce passé-là de manière active et de manière représentative, on aura du mal à s'en détacher. Je pense pas qu'un individu puisse le faire. On a eu des individus qui étaient plutôt taille patron. On a Ugarte qui hésite pas de temps en temps à rappeler les joueurs, etc., etc. C'est quelque chose dans le club. C'est quelque chose dans la mentalité du club. Il faut vraiment qu'on se coupe du passé. Il y a vraiment un nouveau projet à faire. Et je pense que tant qu'on gardera des éléments du passé, on sera ramené vers ce passé.
Basto, pour rebondir sur ce que Dryas y disait. On a vu qu'il n'y a personne qui est sorti du lot quand le bateau il a coulé, que ce soit à Newcastle ou à Milan. Il n'y a personne qui s'est rebellé. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Il faut dissoudre le club. non, mais c'est vrai, on a recruté Lucas et Skriniar en pensant qu'ils amèneraient ce côté leadership qu'eux, ils avaient dans leur ancien club, etc. etc. Force est de constater que Lucas l'affiche sur certains matchs, mais c'est vrai que quand ça a coulé, notamment à Milan, Lucas... couler avec tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Après, peut-être que pour un leader soit fonctionnel, il faut aussi que tout le 11 soit cohérent et fonctionne bien. On voit des joueurs qui, quand ils repartent en sélection, retrouvent un statut de leader alors qu'au PSG, ils coulent. Donc, je pense que c'est plus une question globale que de personnalité de tel ou tel un joueur. Je ne suis pas sûr que changer de capitaine change quelque chose. Marquinhos a été élu démocratiquement par le vestiaire. Donc il est là, donc c'est-à-dire que le vestiaire le considère comme leader, et puis c'est un peu symbolique pour moi un capitana. Voilà, le leadership, ça doit être fait sur le terrain. On voit que Mbappé l'a beaucoup plus en équipe de France qu'au PSG actuellement. Donc voilà, c'est un problème global du club. Je pense que le club est en reconstruction, on le sait, et ne va pas encore très très bien.
Ok, il y a Rekoba qui nous rejoint. Apparemment, il n'a pas de caméra, je ne sais pas s'il nous entend. Non ? Ok, bon, on va continuer, on va attendre que M. Rekoba soit prêt. Du coup, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas, de QSI spécifiquement, n'a pas ce problème d'être nul à l'extérieur, et peu importe les joueurs qu'on aura, ça fait partie de l'ADN du Paris Saint-Germain QSI, et que notamment quand le Paris Saint-Germain a voulu construire son projet, il s'est énormément basé sur le projet du Barça. Parce qu'on a voulu jouer bien, etc. On a voulu jouer en 4-3-3, possession, etc. Dans le premier temps, c'est les coachs comme ça qu'on a pris. Mais est-ce qu'on n'a pas pris un autre problème du Barça? Parce qu'en voulant trop caler sur le tiki-taka, est-ce qu'on n'a pas récupéré le problème du joueur à l'extérieur du Barça? Parce qu'on se rappelle que Luis Enrique, il vient au Parc des Princes, il prend 4-0. Après, il arrive à se sortir de ça grâce à l'arbitrage. Après, derrière, en quart de finale, il tombe sur Turin, il prend 3-0 à Turin. Donc, ce modèle du Paris Saint-Germain, est-ce que ce n'est pas dans l'ADN du club, et peu importe les joueurs qu'on va prendre, bah on aura toujours ce problème. Qui veut le prendre?
Ouais, bah non. Il y a cette espèce de théorie qui consiste à croire nous sommes maudits, ça vient de quelque chose d'ésotérique, etc. Puis déjà sur le fait d'importer le Barça, Le Barça, faut rappeler une chose, hein, ce Barça-là et le Barça d'avant, le Barça avait une immense star qui était Lionel Messi, mais sinon toutes les autres stars, elles étaient où? Elles étaient au milieu du terrain, quoi. Et même tu remontes un tout petit peu avant, les vraies grosses stars du Barça, hein? Et puis le Barça avant, et puis tu remontes un petit peu, encore un peu avant, les vraies grosses stars du Barça, bah, elles étaient derrière. C'était Carles Puyol, c'était Maché. Après, Xavi et Iniesta à la même époque, mais juste après, c'était Xavi et Iniesta. Et c'est seulement après, quand Barça a commencé à plus fonctionner, qu'effectivement, ça a commencé à recruter des stars devant et à avoir ce truc-là. Mais on n'a pas forcément importé des trucs du Barça qui fonctionnaient. Et après, quant à cette lecture, de croire que c'est immuable, qu'on ne pourra pas changer quelque chose comme ça, je pense vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment, il faut savoir se couper du passé. Tu te retrouves avec, Basto l'a rappelé, il a été élu démocratiquement, mais tu te retrouves avec un Marquinhos qui est capitaine. Marquinhos, il est gentil, hein. Au début de la saison, tout à coup, on a l'impression qu'on va retrouver le vrai joueur. Mais c'est un poids, et ce poids-là, il est symbolique du passé. Tu as quelque chose qui peut émerger dans un nouveau collectif, mais tu gardes ces embryons du passé. Il y a un moment où il faut savoir juste arracher le bandage et puis se relancer et pas croire à une malédiction, à que sais-je, ou etc. C'est par un état d'esprit. Basto l'a très bien mis en avant. C'est pas les joueurs, c'est pas les individus. Tu vois des joueurs qui, quand ils arrivent en sélection, sont des patrons. C'est une mentalité au PSG qui était instaurée avant, qui était cette espèce d'état d'esprit on est les plus forts du monde, qui consiste à dire je suis fort contre les faibles et je suis faible contre les forts. On a commencé une révolution de cet état d'esprit, mais pas forcément en changeant tout. Le fait que Marquinhos soit capitaine, c'est une symbolique qui est très lourde à cet égard. Et je pense qu'il y a ni malédiction, que si on importait du Barça, bah on l'a fait vraiment à l'envers, on n'a pas importé les bons trucs du Barça. Et pour terminer, la solution, elle est dans le savoir se remettre en cause. Pas le faire à 50%.
Pour rebondir sur ce que tu as dit sur Marquinhos, on a vu quelque chose de exactement, enfin quasiment similaire à Newcastle et à Milan. C'est un truc, tu vois, quand je t'ai dit que ça va être, peu importe les joueurs qu'on ramène, ça va rester au Paris Saint-Germain. Le but qu'on prend de Giroud, où tout le monde s'arrête de jouer, il y en a un qui ramasse des billets, l'autre il appelle l'arbitre, Hakimi il est au sol. Contre Newcastle, il y a le même but de Dan Burn qui exactement vient dans le dos de Skriniar et qui remet la même tête et qui l'explose dans un duel aérien. Juste avant, ça arrête de jouer aussi parce qu'il y aurait eu une faute. Ça fait des années que je le vois. Chaque fois, on continue à faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un truc intéressant. C'était Will Steele. J'ai vu une interview récemment qui a dit que pour préparer les matchs avec le Paris Saint-Germain, il se mettait en tant qu'arbitre et il faisait exprès d'être un arbitre extrêmement nul qui sifflait pas les fautes, en fait, pour bien énerver les mecs et pour qu'ils restent dans le contexte du match. Est-ce que ça, c'est pas un aspect que le Paris Saint-Germain il doit travailler? Parce que j'ai l'impression que dès que l'arbitrage n'est pas en notre faveur, chose qui est assez régulière à l'extérieur, parce qu'on se plaint de ce qui s'est passé à Milan, mais quand on a joué au Parc des Princes, l'arbitrage il était clairement en notre faveur, niveau carton, etc. Donc, j'ai l'impression que dès que l'arbitrage met une douille, l'équipe elle perd, alors que toutes les équipes se prennent des douilles d'arbitrage. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, il est tellement habitué en Ligue 1 à être le chouchou, entre guillemets, et quand tu tombes, par exemple, la faute où Hakimi est tombé, peut-être en Ligue 1, il aurait sifflé. Donnarumma versus Benzema, en Ligue 1, il aurait sifflé. J'ai l'impression que ces mecs-là, dès que tu leur mets devant un contexte extérieur où tu as les fans, l'arbitre qui n'est pas forcément avec toi, ça coule. Il y a des choses qu'on peut faire pour travailler ça, non, Basto?
La transition la plus longue de l'histoire de Nyx. Non, mais même en Ligue 1, tu remarques qu'il y a certaines occasions où on arrête de jouer, sauf qu'il n'y a pas but derrière, donc on ne le remarque pas. Mais sauf qu'un plus haut niveau, et bah derrière, ça paye cash. Mais c'est, pour moi, c'est du QI, c'est du manque d'intelligence des joueurs. On est quand même la seule équipe qui arrête de jouer en sachant qu'il y a le VAR. Au pire, il y a but, il est vérifié s'il y avait vraiment faute. Et les mecs s'arrêtent de jouer, donc ça, c'est dans leur cerveau. Bon, Luis Enrique a amené un psychologue, peut-être qu'ils peuvent travailler là-dessus, j'en sais rien. J'espère que Luis Enrique travaille lui aussi avec le psychologue, parce qu'avec son côté têtu, obstiné, avec son système, ça n'aide pas non plus les joueurs. Donc non, c'est comme l'a dit Draya, c'est une question de pure mentalité, ce n'est pas une question de fatalité, etc., etc. Alors après, oui, il y a des coachs qui ont des bilans à l'extérieur dans la manière dont ils jouent, qui sont négatifs par rapport à domicile. Enrique en fait partie, Emery en faisait partie. Mais des Tourelle, des Pochettino n'avaient pas forcément des bilans à l'extérieur largement moins bons qu'à domicile. Donc voilà, il y a peut-être un peu de profil coach, mais à 99%, c'est la mentalité des joueurs et leur manque de, je sais pas, leur manque d'intelligence. Ouais.
Mais il y a Rekoba qui nous a rejoint en direct des toilettes. Bonjour Rekoba, en direct du Japon. La question, c'était comment résoudre le problème du manque de leader dans ce Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce que toi, tu ferais ? Est-ce que tu changerais de capitaine ? Est-ce que tu recruterais quelqu'un qui a ce caractère ? On parlait aussi également des problèmes d'arrêter de jouer quand on pense qu'il y a faute. À chaque fois, on se fait douiller, parce qu'on se fait douiller tout seul. On s'auto-douille, en fait. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Bah, je pense pas que de changer le brassard change quelque chose. Pour moi, ça veut rien dire. Mais c'est surtout ton effectif que tu dois construire avec des joueurs qui ont du caractère et qui font pas caca culotte dans les grands matchs. Et quand la pression monte, et on peut voir la différence. On en parle souvent, mais on va en reparler encore entre l'effectif qu'on avait entre les années 2013 et on va dire 2016 et l'effectif qu'on a depuis 2016. Qui a remplacé en termes de leadership, d'expérience et de mental Maxwell, Alex, David Luiz, même Thiago Silva, même si on disait qu'il faisait caca culotte, Thiago Motta, Matuidi, Ibrahimovic, Lavezzi, tous ces joueurs-là, bah, ils étaient capables d'aller gagner à Stamford Bridge à 10. Voilà. Donc, il y a depuis une certaine période, comme je l'ai déjà dit, des cadres qui ne sont pas des cadres et qui mentalement sont défaillants. Et ton effectif aujourd'hui, il n'est pas construit pour pouvoir gagner dans des grands matchs et dans des adversités compliqué et dans une atmosphère hostile, et on l'a encore vu, on perd à Newcastle, on perd à Milan, et très souvent on n'arrive plus à jouer notre jeu, tous les joueurs sont bridés et il y a beaucoup d'erreurs qui font qu'aujourd'hui on n'arrive toujours pas, et pour moi c'est sur les profils de joueurs et les caractères qu'ils ont que tu dois tabler. On a pris Lucas Hernandez, pour moi il doit s'imposer comme un vrai leader, même si ça fait pas longtemps qu'il est là, il doit montrer que c'est un vrai leader. Mbappé aussi, on l'attendait à Milan, on l'a pas vu. Et puis surtout, il y a des joueurs aussi qui mentalement sont défaillants et qui doivent partir comme les autres qui sont partis précédemment. Je pense à Marquinhos, même si son niveau est bien meilleur cette saison. À un moment donné, je ne pense pas qu'on puisse gagner la Ligue des Champions avec un joueur comme ça derrière.
Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, pour répondre à ta question, ce truc vis-à-vis de l'arbitrage, c'est juste une équipe qui réfléchit en termes de « les choses me sont dues ». Et à partir du moment où ça va pas dans son sens, c'est genre, ah ben, c'est pas normal. Et du coup, tu comprends pas. Mais c'est toujours la même chose. C'est le syndrome du faible contre les forts et fort contre les faibles. Et c'est ce bug-là. Et par rapport à ce que disait Basto, vite fait, je voulais réagir. Ouais, c'est vrai qu'Emery avait des difficultés à l'extérieur. Mais ce qui est perturbant, c'est le gap, le différentiel qu'il y a entre l'extérieur et domicile qui est particulièrement prégnant maintenant. Dans ce que dit Reco, c'est encore une fois mettre les joueurs. Je pense que là-dessus, on fait fausse route. Tu prends un Maxwell, tu mets un Maxwell dans cet effectif. Je suis pas sûr qu'il y arrive. Tu prends un Motta, tu mets un Motta dans cet effectif, peut-être, mais c'est pas sûr.
Ah, mais si tu le mets tout seul, oui. Mais si tu as une addition,
mais oui, non, mais c'est ça, c'est,
Motta
mais
oui, plus mais Maxwell plus Matuidi plus Lavezzi plus Ibrahimovic.
Laisse-moi finir. Mais tu vois, le seul en fait dans la liste qui individuellement en effet amène cette différence-là, c'était Ibrahimovic parce qu'il est hors norme sur cet aspect. Mais avec Ibrahimovic, tu avais aussi le problème que dans les matchs importants, il avait tendance à disparaître. Mais le seul qui a amené vraiment ça, tu peux écouter les déclarations des Jallet et des consorts, c'est oui, c'était le premier à venir, il nous engueulait dès qu'on était là à la bourde, etc., etc., etc. Maintenant, tu as une mentalité, tu vois, tu peux pas dire, par exemple, Basto le disait très justement, tu as des joueurs dans l'effectif qui, quand ils sont en sélection, sont capables de pousser une gueulante. Sont capables de s'imposer, etc., etc. Et on en a dans l'effectif. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas au Paris Saint-Germain ? Et c'est là où, si tu veux, effectivement, maintenant, tu rajoutes un Maxwell sur ceux qui sont déjà comme ça, qui est ce genre de profil, tu auras la même chose. Ah. C'est que le problème, il est dans la mentalité de l'équipe, il est dans l'approche que l'équipe a dans son rapport à elle-même. Ce truc de les choses me sont dues, de toute façon je me suis construit pour être le meilleur, et si on ne me donne pas la victoire, d'une certaine manière c'est qu'on me vole, c'est etc. Et c'est cette mentalité-là qui est complètement foireuse. On a essayé de la réformer un peu cette année, mais on ne l'a pas complètement fait. Et un des syndromes de ça, c'est Marquinhos capitaine. Ça te raconte le fait que on ne l'a pas complètement fait. Et si tu veux, c'est se dire que je vais prendre des individus puis ça va résoudre le truc. Non, c'est la manière de se concevoir en tant qu'équipe, le rapport qu'on a à soi-même qu'il faut vraiment le tacler et vraiment, vraiment s'en occuper. Quoi.
Et juste aussi pour répondre à Rico, t'es Mota, t'es Maxwell et t'es Mathudy, ils sont là lors du 6-1. Mathudy, il mange même une pizza avant le match, là, la fameuse vidéo. Donc tes cadres, tes fameux cadres qui, soi-disant, ils sont là au moment de la transition et ça fait partie du drame originel, ils sont présents. Pas Ibra, mais les autres.
Oui, après, on sait que la remontada, c'est un peu hors du temps. Tout ce qui s'est passé, on en a déjà reparlé. Il y a eu des arbitres qui en ont parlé, on a eu des communiqués. On sait que la remontada, voilà, c'est un truc qui ne se repassera plus jamais. C'est un truc qui a été construit, limite. Donc, à un moment donné, le Manchester, je veux bien. Le Real, je veux bien. Malheureusement, tout ça part aussi du fait de la remontada, malheureusement. Après, c'est vrai que ces gars-là sont là. Mais les exploits que tu as pu faire à Stamford Bridge, quand tu te fais éliminer face au Barça sans avoir perdu, etc.
Ouais, mais regarde, voilà. t'as déjà la... C'est pas une remontada, mais la défaite contre Chelsea où tu gagnes 3-1 et tu perds 2-0 à la 90e. Et là, il y a tout le monde, il y a même Ibra, et tu passes pas l'écart avec tout ce monde-là. Alors, c'est pas aussi marqué qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà.
On peut pas les mettre en même plan.
Bah, 3-1-2-0, c'est déjà un bug mental énorme, hein, avec un bug tactique de blanc qui fait n'importe quoi avec une.
En fait, pour moi, regarder seulement les résultats et le fait qu'ils aient pas passé l'écart, oui, factuellement, ils ont pas passé l'écart, ils sont jamais en demi, etc. Ok. Mais on s'accorde tous pour dire quand même qu'il y avait une vraie âme dans cette équipe, qu'il y avait des vrais cadres, des vrais leaders, que l'effectif était bien construit, qu'on avait même un banc.
Tu t'es quand même fait ces deux fois par le Barça, on dirait des gosses. Tu te fais battre par City avec un match lamentable, tu te fais battre par Chelsea.
Ouais, mais t'as vu quel entraîneur t'avais aussi avec. T'avais pas de Carlo Ancelotti, t'avais pas de Luis Enrique, t'avais pas de top entraîneur, t'avais un Laurent Blanc quand même.
Rico, juste deux secondes sur ce truc-là. D'une certaine manière, t'as raison. Il y avait cette âme d'équipe que tu retrouvais. Malheureusement, tu le retrouvais jusqu'en quart de finale. Pourquoi ? Parce que la fois où en quart on a fait le plus trembler l'équipe adverse, ça reste la fois où on l'a fait avec Carlo Ancelotti contre Barcelone. Après ça, en quart, il nous manquait toujours un petit truc qui n'était pas. Tu vois, en quart là, la raison pour laquelle Barcelone part, et je ne sais pas si vous vous souvenez, toute la mythologie, tout le discours autour de la Pulga va revenir parce que Messi était blessé à l'aller, est-ce qu'il ça sera short, etc. Et ils sont vraiment...
Dès qu'il rentre, il y a caca culotte.
Oui, mais pour le coup, tu as Barcelone qui a vraiment peur. Qui a vraiment peur. Et quand on voit le match retour, la manière avec laquelle ça se déroule, Barcelone a vraiment peur. On n'a jamais fait aussi peur à une équipe que sur cette rencontre-là. Donc, ce que tu dis est vrai. Et c'est le même constat qu'avec Ibra. Ibra, très fort, machin, pour motiver les mecs, pour machin, pour truc. Mais dès que tu arrives en demi-finale, finale de Ligue des Champions...
Non, huitième, Ibra, c'est huitième.
Ouais, on va à huitième. On a du mal à le voir, le Ibra. On avait vraiment du mal à le voir. Et si tu veux, c'est à la fois, c'est vrai, oui, il y avait cette âme-là, mais ce n'était pas non plus une âme sur laquelle on peut se baser réellement. Ce n'était pas non plus un truc, genre, c'est pas non plus une référence qui est immuable. C'est bien, c'est mieux qu'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est suffisant ? Non. Et voilà.
Mais d'où l'importance aussi du vrai capitaine du navire qui est aussi l'entraîneur. Et forcément, quand tu as un Carlo Ancelotti qui l'a gagné 150 fois en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, bah forcément, ça aide d'avoir un coach comme ça pour passer des paliers importants. Aujourd'hui, Luis Enrique l'a déjà gagné. Mais c'est vrai que comme on l'avait déjà dit ici, je crois, c'est compliqué à l'extérieur pour lui.
J'entends ce que tu dis, Rico, mais je pense vraiment, pour moi, pour résoudre l'équation, il y a un moment où il va falloir arrêter de se poser la question des individus, il va falloir réfléchir à l'état d'esprit de l'équipe. C'est en effet,
en effet
des joueurs, mais déjà, mais une mentalité, c'est réforme cette espèce de truc, ce rapport avec les choses me sont dues, et réforme-le vraiment. Tu ne peux pas avoir marqué capitaine et te dire que tu l'as réformé, ça ne tient pas la route. Réforme-le vraiment. Puis là, maintenant, après, mets des joueurs qui veulent gagner, qui machin, qui truc. Construis ton ego en mettant les bons blocs aux bons endroits, etc. Et effectivement, le coach. Et se poser les questions des individus, mais une fois qu'on a réformé ce truc-là. Parce que si tu pourras rajouter, c'est ce qu'on a fait pendant trop longtemps, tu pourras rajouter individu sur individu sur individu sur individu. Tant que tu auras cette mentalité-là, tu ne résoudras rien, quoi.
Oui, mais est-ce que ça part
ouais, je suis d'accord. Et ça va prendre
de certains joueurs ? Parce que moi, je serais bien...
C'est sévère.
J'aimerais bien tester une autre charnière défensive parce que je vois souvent, notamment, on a un abonné avec Clovis Marc qui, à chaque fois, il tombe sur Donnarumma. Il nous dit, ouais, Donnarumma, il fait une boulette, il nous a coûté le match, on peut pas passer un cap avec un gardien comme ça. Ça, c'est ton argument, je peux le comprendre. Mais est-ce que cet argument-là ne s'applique pas à Marquinhos ? Est-ce qu'on peut passer des grands caps dans cette Ligue des Champions avec Marquinhos en défense ? Parce que tu te rends compte qu'à chaque fois, franchement, le truc avec Léao où il met sa main dans son dos et il se prend pour un gardien. Au lieu de l'attaquer, le mec, il peut prendre un snap de Léao en train de faire son retourné tranquillement. Mais si vous regardez le retourné, il est nul. C'est même pas un retourné exceptionnel. Tu t'avances de 3-4 pas, tu fermes l'angle de tir et le ballon, il rentre pas. Et le mec, il est là tranquillement. Il est trop gentil. Il est trop gentil, ce mec. C'est un mec, il lui manque de l'agressivité. Tu vois, même, je pense que même Ramos, qui était pas bon, on l'a vu face au Bayern, c'était le seul qui était pas jeté à la poubelle. Il a fait une bonne performance, le match aller-retour contre le Bayern, Ramos. Dans ce genre de match-là, il te faut un mec qui défonce les gens. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on ne va pas parler que de niveau, parce que le niveau de Marquinhos, c'est un grand défenseur. C'est probablement peut-être top 10, top 15 défenseurs en Europe. Mais par exemple, on voit que par exemple Kimpembe, qui est moins fort que Thiago Silva, si vous repartez à le match aller de la remontada, juste avec son agressivité, il a mis Messi dans sa poche. Alors que Thiago Silva, il a des années-lumière de Kimpembe. Dans ce genre de match, il faut ce caractère. Il n'y a pas que le niveau. Donc, est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour essayer une autre charnière? Je ne sais pas, soit une Lucas Hernandez-Skriniar, pour quand on va à Dortmund, Hernandez-Skriniar, ou si Kimpembe est revenu, Kimpembe-Skriniar, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est obligé de continuer avec Marquinhos?
Non.
Si je peux commencer, non, on n'est pas obligé. Après, le problème, c'est qu'il est capitaine et il a des qualités aussi que Luis Enrique aime. Maintenant, personnellement, je suis d'accord avec toi. Alors, pour revenir du coup au départ sur Clovis par rapport à Donnarumma, en attendant, Donnarumma a sorti le match qu'il fallait face au Milan alors qu'il avait eu un traitement de faveur très spécial et lui a répondu présent. Donc, de dire que, alors certes, il a des défauts au pied, etc., encore à peaufiner, à s'améliorer, etc. Mais en attendant, Donnarumma, maintenant depuis le Real et quelques matchs après le Real, il est très bon. Il nous a fait gagner des points en Ligue 1. Je trouve que sur sa ligne, il est imparable. Il a fait beaucoup, beaucoup d'arrêts, etc. Là, face au Milan, il n'a pas cédé à la pression. On l'attendait, parce que c'est bien beau aussi, parce qu'on l'attendait tous à ce moment-là. On attendait de voir ce qu'il allait donner face au Milan. Au final, c'est le meilleur Parisien. Et il y en a encore, du coup, qui vont lui tomber dessus, de dire Donnarumma, machin, on ne peut pas gagner avec lui ou quoi que ce soit. Il a répondu présent. Factuellement, il a répondu présent. Donc, à un moment donné, laissons les choses se faire. Pour l'instant, Donnarumma, il n'y a rien à dire sur cette saison. Ensuite de ça, Marquinhos, pour moi, j'ai l'impression que depuis qu'il est devenu papa, il est devenu tout gentil. C'est devenu un papa, t'es tout gentil. Tout. Alors, c'est comme ça aussi, c'est la vie, c'est ce que tu vis dans la vie, l'expérience, etc., qui fait que tu changes. Ça change un homme, etc. D'avoir des filles, ça change un homme. Et peut-être qu'il est devenu tout gentil et que ça se retranscrit aussi sur le terrain. Peut-être qu'il y a aussi les facteurs des matchs précédents, des grands rendez-vous précédents, où il s'est chié dessus, qu'il est passé à côté et que mentalement, c'est compliqué pour lui. Mais en tout cas, il y a une attitude différente de Marquinhos sur le terrain. Quand on voit comment il était avec Thiago Silva avant, il sortait un ballon, il faisait un tacle rageur. C'était un Marquinhos totalement différent. Donc, à un moment donné, pour moi, on voit bien qu'on ne peut pas passer un cap avec lui. Ça se voit, on l'a vu dans nos résultats, etc. Dans les grands rendez-vous, c'est très compliqué. Dès qu'il y a beaucoup de pression, c'est compliqué. Quand tu vois l'équipe du Real qui gagne la Ligue des Champions 3 fois, tu vois les profils qu'il y a. À chaque ligne, tu as des tueurs, tu as des mecs qui veulent gagner, tu as des mecs qui te laissent rien, pas un centimètre. Ils te tirent le maillot, ils te mettent des coups. Un Marquinhos, il ne fait pas ça. À City, c'est la même chose. Des Rodri, des Ruben Dias, des Stones, ils titillent les chevilles, ils tirent les maillots. C'est des mecs qui ne lâchent pas. Devant, c'est pareil. Et à un moment donné, je trouve que oui, dans notre effectif, on n'a pas assez de joueurs comme ça. À toutes les lignes, il nous manque des joueurs comme ça. On a beaucoup de gens trop gentils et Marquinhos, pour moi, en est à l'image. Donc oui, pour moi, il faudrait changer de charnière, il faudrait tester autre chose. Malheureusement, il est capitaine, donc c'est compliqué.
C'est pas qu'une question de capitaine. En fait, si tu changes, Marquis, disons par exemple qu'on met Skriniar à son vrai poste à droite pour voir déjà. Le problème, c'est que tu changes l'animation parce que Marquis, c'est un défenseur de couverture et qu'il a tout notre jeu se base sur le côté Hakimi Dembélé, tu vois. Donc si tu mets Skriniar là, avec qui lui n'est pas un défenseur de couverture, tu changes ton animation. Alors moi, je veux bien changer d'animation, mais tester Marquis sur le banc, etc. Ça n'a pas l'air d'être le choix d'Enrique. Hein. Enrique, on a l'impression qu'il va continuer sur une même idée toute la saison.
Pour moi, c'est encore les individualités. Alors, je peux pas m'empêcher de constater que Reco est encore parti dans le soldat Donnarumma, alors que c'était pas le sujet, c'est pas grave.
Mais on parlait de Donnarumma.
C'est un peu la mode.
Pouvoir passer un cap grâce à ces joueurs-là.
C'est un petit truc un peu récurrent.
Mais une individualité, c'est important dans le collectif.
Ouais, hein. Oui, mais par contre, tu vois, par exemple,
si on parle de Donnarumma,
tu pourrais t'attendre à ce qu'il gueule et qu'il soit entendu beaucoup plus par ses centraux. Et de temps en temps, tu le vois en train d'essayer de gueuler et il n'est pas entendu par ses centraux. Donc, y a, moi, c'est, enfin, tu peux demander à Basto. Hein. J'étais pas pour que Navas reste et j'étais très content que Donnarumma s'installe. Mais il n'est pas encore parfait. Il a encore, il est jeune et c'est normal. Il a encore une marge de progression énorme et arrêtons de vouloir le voir. Plus grand que ce qu'il est, il est déjà très très bien comme ça.
Non, mais il se fait démonter par beaucoup de monde sur chaque but. Peut-être,
ouais, c'est possible, ouais, c'est possible là-dessus. Moi, je suis
Donna, parce que son arrêt là où il la remet un peu dans l'axe après, là, c'est pas Marquinhos qui monte pas sur les AO, c'est une erreur de Donna parce qu'il la remet dans l'axe, donc ils vont chercher la moindre petite.
Ouais, ok, d'accord. Ok. Maintenant, sur Marquis, moi, je pense pas que c'est le fait d'avoir été papa qui a été un problème. Je pense que Marquis, son grand problème, c'est d'avoir eu le mauvais papa. C'est pas la même chose, c'est pas le même débat, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Marquis, en fait, on a le joueur qu'on a toujours vu. C'est un joueur qui aimerait peut-être être le patron, mais qui fondamentalement n'est pas fait pour être le patron, qui est fait pour être l'adjoint. À partir du moment où il est le patron, il prend pas forcément les bonnes décisions. Et le problème, c'est justement, c'est qu'il a eu un mauvais papa. Il a eu un papa qui lui a appris à avoir peur de ce qui se passe derrière. Il a appris à un papa qui lui a appris à jouer dans un bloc qui est désuni. Même si le papa pouvait avoir toutes les qualités du monde, relance, anticipation et tout le bordel, il a mal appris. Et le truc, c'est est-ce que maintenant il saura se remettre en cause? Mais Marquis, il y a un moment où, tu sais, l'année dernière, il fait une saison sans dessus dessous. Là, il fait un match sans dessus dessous. En début de saison, t'as l'impression qu'il revient. Mais le problème, c'est même plus le joueur. Faut réaliser, c'est le symbole, en fait. Marquis, c'était un des cadres lors du 6-1. Point. C'était un des cadres lors du 6-1. C'est un mec avec lequel on a continué et année après année, alors qu'il est toujours là, on se fait laminer parfois de manière honteuse en ressemblant au PSG Globetrotters en quart de finale de Ligue des Champions. Et à chaque fois, il incarne le projet. Donc, tu peux toujours discuter niveau, machin, bidule chouette. Il y a un moment, il faut juste savoir laisser partir ce genre de mec. Et pour ce qui est de la charnière... Ouais, mais faut aussi qu'on se pose la question du de Skriniar. Skriniar, alors peut-être que le contexte n'est pas le bon, mais à quel moment le contexte va être bon pour ce joueur? C'est son début de saison. Hein?
Quand il sera sur son bon pied déjà, ça peut aider.
Ça peut aider, oui, ça peut aider. Mais en tout cas, pour l'instant, il a apporté aucune certitude. Donc si tu commences à te dire bah tiens, ça va être Skriniar mon homme fort, tu te mets dans une situation qui est complexe. Tu te mets dans une situation qui est complexe. Voilà. Okay. Donc, c'est oui, ouais. Enlever Marquis, bah en soi, tu ne devrais pas avoir commencé la saison avec lui. Comme l'a rappelé Réco, bah Marquis est capitaine, c'est compliqué de le faire. Et le truc, c'est que ton autre homme fort, bah est-ce que c'est vraiment un homme fort? Et tu te retrouves à te dire, bah tiens, mon homme fort, ça va être Lucas Hernandez, alors que Lucas Hernandez, tu as passé ton année à le faire jouer à gauche. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution simple de la manière avec laquelle les choses ont été
faites. Hernandez, tu l'enfermes dans un rôle monotache, ouais, en ce moment.
Ça oui, ça oui. Mais est-ce que tu, là, maintenant, tu lui demandes d'être central, est-ce qu'il est capable de faire le switch tout de suite et puis tout se passe bien et tout est arrivé?
Il est plus central que latéral, hein, en soi.
Oui, mais...
J'étais obligé de couper parce que ça fait 30 minutes qu'on était sur un sujet, on a d'autres sujets à aborder. On va parler tactique un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé du problème. Moi, j'aimerais bien trouver des solutions pour le prochain match à l'extérieur. Je pense que ça ne va pas être possible. La question, on se pose, mais je pense qu'avec notre coach, il va clairement ne pas vouloir. Mais est-ce que la solution à Dortmund, vu le manque de qualité technique qu'on a à l'extérieur, le manque de personnalité qu'on a dans ce genre de match, est-ce que ce ne serait pas une solution de jouer un peu plus bloc bas, bloc médian face à Dortmund pour éviter les grands espaces qu'on a et prendre des bouillons comme on a pris à Newcastle et à Milan avec des espaces entre les lignes qui sont interminables? Est-ce que c'est pour vous la bonne solution, même si on sait très bien que Luis Enrique il va toujours faire son jeu et qu'il va continuer à jouer très haut et laisser plein d'espace dans son dos parce que il a dit encore en conférence de presse hier, je crois, qu'il va toujours jouer comme ça. Donc, bon, certes. Est-ce que vous auriez fait différemment? Est-ce que pour vous, la solution, c'est de jouer un peu plus bas, jouer un bloc qui peut jouer en contre sur nos forces avec Colomwani, avec Dembélé, avec Kylian Mbappé ou même Ramos? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Est-ce que pour vous, c'est censé être une bonne idée? Je t'écoute, Basto.
Blockba, pas forcément. On sait que Dortmund laisse des espaces, donc il faut continuer à avoir un contre-pressing, essayer de récupérer le ballon assez haut. Maintenant, ce n'est pas un problème de hauteur du bloc, c'est un problème de positionnement entre les lignes qui sont trop espacées. Et ça, c'est un problème de système de Henrique qui se perd dans cette chose hybride qu'on a compris en début de saison, mais dont on voit tous les défauts de plus en plus parce qu'elles sont comprises par l'adversaire et parce que Henrique n'a pas de la variation à ça. Donc, on a un jeu qui devient stéréotypé, que ce soit avec ballon ou même Enrique l'a dit il y a quelques jours sur Ramos, par exemple, qui n'avait pas de centre. Il a dit, mais c'est pas notre jeu de centrer parce que nous, on a une animation différente. Oui, mais on n'en a qu'une. C'est une animation, donc on va comprendre qu'on ne centrera pas, même quand Ramos joue. C'est un peu bête d'être borné à ce point-là. Et défensivement, on devient assez prévisible. Dès qu'Ugarte est un peu moins bien, on vient presser entre lui et celui qui est devant, c'est-à-dire Emery. Et c'est tout de suite plus compliqué. Donc, ce n'est pas une question de positionnement du bloc, c'est plus une question de comment il aligne ses joueurs et le positionnement des joueurs et la variation
Basto,
du jeu. Ouais.
je te relance là-dessus parce que ton positionnement du bloc, tu me dis que c'est pas ça. Moi, clairement, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que quand, si tu vois le premier but, tu te fais prendre dans la profondeur par Olivier
C'est
Tracteur
marrant.
Giroud.
Oui, mais
Olivier Tracteur
on est
Giroud.
parti, on est parti juste. Non, mais je me permets de faire le sous-texte pour que tout le monde puisse suivre. On est parti sur un débat côté Knicks, mais il faut qu'on joue avec Kolo Muani, et côté Basto, mais il faut qu'on joue sans Kolo Muani.
Alors,
Maintenant,
pas
c'est
du tout.
Jean-Pierre, continue, monsieur. Ah, si,
Alors
à
là,
l'arrivée, si,
non,
à l'arrivée, si,
non,
mais j'expliquerai pourquoi.
non,
Dis-donc, je
non,
comprends là-dessus.
c'est vraiment. Là, on parle de la défense. Là, je parle même pas de l'attaque. Là, l'attaque, je m'en fous de qui. Hein. Moi, je suis dans comment soulager cette défense. Parce que j'ai l'impression qu'en profondeur, on est terrible cette année. J'ai l'impression qu'on est nul. Si tu reprends les buts contre Nice, profondeur. Et là, je regardais une stat ce matin qui m'a rendu fou. Nice, depuis le début du championnat, ils sont à un but de moyenne par match. Quelle est la seule équipe qui a pris 3 buts de Nice? C'est le Paris Saint-Germain. Et où? Au Parc des Princes. Et vous trouvez ça normal? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème avec cette défense qui se
Non, mais
fait
c'est
prendre à chaque fois dans son dos?
mais encore une fois, le problème de défense, c'est aussi le milieu qui est esseulé parce qu'on est souvent en 3-3-4 avec les 4 devant qui ne font pas les replis. C'est toujours le même problème. Pour moi, c'est le positionnement du jeu hybride entre 4-2-4, 3-3-4. Parce que, en fait, souvent, on est en 3-3-4 si on regarde à la perte du ballon. Et c'est très compliqué. Dès que tu as un joueur, le premier maillon qui n'arrive pas à faire ce contre-pressing avec un Ugarte qui presse moins haut, par exemple, eh ben, tu te prends des foudres. Et ça continuera, mais c'est pas une question. Même si tu joues plus bas, alors si tu joues plus bas, peut-être pas. Tu concéderas peut-être un peu moins, mais après, tu seras moins dangereux toi aussi, puisque Dembélé, etc., devront partir plus bas. Donc non, pour moi, avoir un jeu de transition contre Dortmund en récupérant le ballon assez haut, c'est ce qu'il faut faire, mais pas comme ça.
Ah, je veux bien. Alors,
Vas-y.
déjà
Ah bah.
pour Eb, c'est 17h le match. Et
Bon.
non, en fait, alors pour moi, on a la recette puisqu'on a battu Dortmund 2-0 déjà. Donc on sait comment les battre. Luis Enrique a étudié cette équipe. Il y a eu un match, on a gagné
Rico,
2-0.
on a battu Milan 3-0 au Parc. Attention.
Dortmund malade.
Oui, mais en tout cas, pour l'instant, ça a marché. En tout cas, pour l'instant, ça a marché. On les a bien asphyxiés, mais c'est ce qu'on avait déjà fait contre certains adversaires, notamment Montpellier, notamment Marseille, où ça s'était bien passé. Et en gros, pour moi, collectivement, on a été bon, mais c'est surtout individuellement où les joueurs ont été très bons tous. À Milan, quand tu regardes, offensivement, on rate tous nos face-à-face et devant le but, Mbappé catastrophique, Dembouz touche la barre et beaucoup de déchets, etc. Au milieu de terrain, on s'est fait transpercer. Ugarte, on ne l'a pas reconnu. Il a perdu un nombre de ballons incalculables et dangereux. Warren, il était tout seul. Vitinha, sans idée et qui, évidemment, défensivement, n'aide pas. Derrière, ça a été la faillite totale aussi, sauf Donnarumma. Donc, à un moment donné, quand tout le monde n'est pas bon individuellement et ne tient pas son poste et ne tient pas son rang, bah évidemment, devant, au milieu et derrière, bah évidemment que tu ne peux pas gagner un match. Face à Dortmund, tout le monde a été bon globalement. Ugarte a été exceptionnel aussi. Donc forcément, ça aide. Devant, on a su marquer, que ce soit collectivement, individuellement, on a été bon. Et on gagne ce match 2-0. Le contre-pressing a été très bon, etc. Donc, pour moi, il faut continuer comme ça. On les a battus déjà 2-0. On a un match sur lequel s'appuyer. Faisons la même chose. Maintenant, je suis d'accord sur une chose, c'est que derrière, c'est très compliqué. Pourquoi? Et on l'a déjà vu aussi quant à la charnière Skriniar Danilo, c'est que Luis Enrique, on le sait, son jeu, c'est de jouer haut, c'est de dominer son adversaire. Donc, c'est d'être le plus haut sur le terrain et le plus en bloc possible. Maintenant, forcément, quand tu as des tracteurs derrière, c'est compliqué. On le voit quand il y a Skriniar et Danilo. Et par moment, même quand il y a Marquinhos-Skriniar, bah, effectivement, c'est difficile. Quand il y a Skriniar, et même avant, quand il y avait Ramos, bah, c'était compliqué avec Ramos puisque c'était une charrette à ce moment-là, malheureusement. Donc, à un moment donné, si tu veux continuer comme ça et pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Teste une autre charnière. Pour moi, avoir un Lucas Hernandez dans l'axe, un Marquinhos, un Mukiele, ça aide. Si tu peux en mettre Hakimi, Marquinhos, Mukiele, Lucas Hernandez, tu auras déjà un peu plus de vitesse qu'un Skriniar. Donc, à un moment donné aussi, c'est bien d'avoir tes joueurs sur lesquels tu as confiance, Skriniar et compagnie. Tu as des statuts aussi, si tu veux. Mukiele part sur le banc, machin. Mais à un moment donné, fais aussi par rapport aux qualités que tu as besoin. Si tu as besoin de jouer haut et que derrière, tu te fais prendre, et on le voit avec Skriniar, alors mets quelqu'un d'autre, mets quelqu'un qui a plus de vitesse. Pour moi, c'est plus là-dessus qu'il faut tabler. Parce que le match aller face à Dortmund, pour moi, on a été très bon. On les a asphyxiés, on a été bon dans le contre-pressing. On sait que Dortmund laisse des espaces. Plus tu récupères les ballons tôt et haut, plus tu vas les mettre en danger. Et c'est ce qui s'est passé alors qu'ils avaient 5 défenseurs quand même. Ils sont venus mettre le bus. Donc pour moi, et puis même, pour moi, ce n'est pas une solution de mettre le bus quand tu es le Paris Saint-Germain. Tu ne sais pas défendre, tu ne sais pas tenir un résultat, tu ne sais pas attendre bas, donc ça ne sert à rien.
Alors, je peux y aller cette fois.
Vas-y.
Pour en revenir sur le débat, parce que pour moi, tu dis qu'on ne peut pas tenir la technique qu'on essaye de mettre en place parce qu'on n'a pas forcément les bons joueurs. Mais pour moi, il y a un vrai débat qui a été posé. Pour moi, la question que pose Nyx, mais peut-être que je l'ai mal comprise, c'est peu ou prou, est-ce qu'on renonce un peu au bloc ? Alors, pas tout à fait, mais est-ce qu'on renonce un peu au bloc ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on utilise le fait qu'on ait des flèches et que grosso merdo, on retourne sur un espèce de passe de ball to Neymar, sauf qu'il n'y a pas Neymar, mais il y a Mbappé, il y a Kolo Muani, et donc on a plusieurs récipients de le passe de ball. C'est jouer la transition pure. Et c'est quelque chose, je trouve que c'est un point de vue qui se défend vu la manière avec laquelle on joue, en tout cas à l'extérieur. Moi, c'est jamais un point de vue que je défendrai parce que c'est un football qui me fait pas du tout envie, mais c'est quelque chose qui se défend. Et là où c'est intéressant, c'est que si tu réfléchis dans ces termes-là, et notamment à l'extérieur, c'est le moment où tu en arrives à la conclusion, même pour moi, que en effet, dans ces cas-là, le match, tu le commences avec Kolo Muani.
C'est la situation. Je peux pas. On a deux des milieux de terrain titulaires, Ugarte et Emery, qui sont dans les 10% les pires en nombre de passes vers l'avant. On a un milieu qui n'est pas du tout fait pour la transition, parce qu'ils ne savent pas relancer la pression. On a juste une attaque qui est faite pour la transition. Donc non, c'est pas possible.
J'ai commencé à faire du tonton. J'ai commencé à faire du tonton. Je vais juste me taire à chaque fois et puis attendre pour pouvoir finir. Je ne suis pas du tout d'accord, Basso. En l'occurrence, tu as Marquinhos qui l'a montré sur un retour, et je pense que c'est beaucoup. Laisse-moi finir. Oh. qui l'a montré qui l'a montré sur le début de la saison. Et à mon avis, c'est travaillé depuis le début de la saison. J'ai pas réussi à finir. Quoi. Beaucoup plus de transversales que ce qu'il en a fait. En quelques matchs, il en a fait plus que toute la saison dernière. Et en l'occurrence, tu as des joueurs qui peuvent être utilisés de cette manière-là. Tu peux aussi tout à coup réfléchir à avoir un Viti à qui tu demandes de jouer un petit peu plus bas. Et il y a des solutions en fait pour jouer comme ça. Et c'est juste que tu es dans une recherche pour pallier quelque chose que tu n'arrives de toute façon pas à faire quand tu es à l'extérieur. Pour moi, faire la comparaison avec le match aller, elle est nulle et non avenue. On l'a très bien vu entre le match contre Milan à l'aller et le match contre Milan au retour, même si à l'aller on est relativement bien payé. On n'a pas du tout la même attitude qu'au match retour. Et donc, on sait qu'on va être confronté à ce problème d'attitude. Et je pense que si. Tu es capable de trouver des relances, tu es capable d'avoir des mecs qui vont récupérer la balle et qui vont se projeter. Et jouer la transition pure, même sans avoir les qualités idoines au milieu pour pouvoir les lancer, en sachant qu'on a les qualités idoines devant pour pouvoir y aller, c'est quelque chose qui se tient. Après, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de défendre, mais c'est quelque chose qui se tient.
Je trouve pas qu'on ait des solutions idoines même devant, en fait, pour moi.
Avec Mbappé, à partir du moment où tu as Mbappé, tu as des solutions idoines pour Mbappé. Le faire. Et Kolo Muani, l'usage de Kolo Muani.
C'est plus pour jouer en transition qu'un Kolo. Hein.
Ah, mais ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, à partir du moment où tu joues à Asensio, mais dans ce cas-là, tu es obligé de jouer en bloc. Mais qu'est-ce qui te dit que tu vas avoir un bloc, en fait, à partir du moment où tu vas jouer à l'extérieur ?
Ah non, mais il parlait de jouer plus bas, mais c'est pas grave. C'est juste que pour moi,
ça revient à ça.
Pour accepter de faire du Deschamps, c'est-à-dire du full transition, on n'a pas les joueurs pour que lui, il a en équipe de France, des mecs comme
Mécanique. On n'a pas Griezmann, ouais. C'est ça.
Griezmann, qu'ils ont au milieu, tu vois, c'est pas nous, on n'a pas ces joueurs-là.
Donc, en fait, vous êtes en train de me dire, les gars, que on n'a pas les joueurs pour jouer à la possession dans un 4-3-3 parce qu'ils ne sont pas assez techniques. On n'a pas les joueurs pour jouer en transition parce que le milieu de terrain, il n'y a personne qui peut faire du pass-to-ball tout Neymar. Wesh, on fait quoi ? On arrête la saison ? On dit.
C'est Campos, il a raté son puzzle.
Non, mais après,
Nix, on vient de rien du
Non,
tout.
mais après,
On
tu as des
vient de
problèmes.
rien du tout. On essaye de construire un tout petit peu, de mettre quelques joueurs. Tu vas pas avoir. Le truc, en fait, si tu veux, c'est que ouais, c'est avant, tu sais, c'était comme si tu avais un puzzle et tu avais 11 pièces qui ne marchaient pas les unes avec les autres. Et là, tout à coup, tu as construit des blocs de pièces. Tu as 3-4 pièces qui marchent ensemble, 3-4 pièces qui marchent ensemble, mais tu peux pas encore avoir 11 pièces qui marchent ensemble. Et notamment au niveau du milieu. Hein, au niveau du milieu, on a aucune certitude. On pourrait peut-être commencer à s'en construire derrière. Au niveau devant, les certitudes, on a du mal à comprendre la manière avec laquelle elles sont construites. Mais tu vas pas pouvoir arriver à quelque chose qui est posé dès cette année. En fait, il va te falloir plusieurs mercato pour y arriver. Et en effet, tu vas pas. C'est très difficile d'arriver à distinguer un système qui serait une bonne réponse avec ce club à l'heure actuelle.
Ça, bon, c'est sûr.
Non, c'est sûr. Mais par contre, tu as des profils de joueurs qui peuvent t'aider dans un système ou dans un autre. Et quand tu veux jouer au football, c'est quand même un peu plus facile avec Asensio et Kanginli, par exemple. Encore plus s'ils sont sur le terrain ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu les voir ensemble, à part, je crois, contre peut-être Le Havre ou je ne sais plus quel match de prépa. Donc, le retour de Kanginli dans le 11, je pense, face à Reims, va faire du bien déjà, techniquement, pour combiner, que ce soit dans une transition rapide. On a pu voir qu'il est excellent, notamment avec sa vision de jeu et sa qualité de passe. On a pu voir comment il a lancé Mbappé la dernière fois. Même dans le jeu, au niveau de sa créativité, c'est un joueur qui joue aussi très rapidement, qui n'a pas 3, 4, 5 touches de balle. Il va très vite vers l'avant et quand il doit la donner, s'il doit la donner sur sa deuxième touche, il la donne. Vitinha, il touche un peu plus le ballon. Un Asensio, on le sait, sur le jeu de position de Luis Enrique, ça aide aussi. Pour faire briller tes attaquants, on a pu le voir quand il jouait, c'est beaucoup plus facile avec Asensio. Pour une transition rapide, s'appuyer sur un Asensio, techniquement, c'est beaucoup plus fiable aussi que sur un Kolo Muani ou sur un Gonçalo Ramos. Donc forcément, il y a des profils de joueurs dans un effectif qui n'est pas encore ultra, ultra garni et quali. Forcément, il va manquer encore des mercato, etc. Bah, tu as des joueurs qui sont essentiels et un Asensio va faire du bien, un Kanginli va faire du bien. Même un Barcola sur le côté droit, pour moi, c'est un peu plus juste techniquement qu'un Dembélé.
Le problème dans ce que tu dis, si tu veux, c'est que tu es en train de te reposer sur Asensio. Voilà, c'est la réponse, machin, mais de choix. Bah, moi, je le connais
non, pas.
Pas
du
moi,
tout,
je, mais... moi, je le connais pas si bien que ça. Mais Asensio, si tu prends les saisons précédentes, ouais, quand il était au Real, il avait des creux sur la saison. Et il n'était pas, il est pas. Et si tu veux, tu es en train de.
Bah. Bonjour, monsieur Draes, parce que vous peignez tout le temps de ne pas pouvoir finir et vous ne laissez pas monsieur Recoba finir.
Oui, mais après, il y en a d'autres qui disent qu'on ne met pas assez de vie, etc. Et puis Recoba, des fois, il peut être long aussi. Mais bon, on va laisser continuer. Mais pour moi, c'est une réponse individuelle projetée sur ce qu'on imagine d'un joueur alors qu'on l'a vu jouer que 3 fois, quoi.
Bah oui, mais moi je trouve que tu mets trop l'individuel de côté, dans le sens où l'individuel dans le collectif il aide. Avoir une individualité qui est comme Kanginli ou comme Asensio, ça aide, tu vois ce que je veux dire?
Mais jamais dit qu'on a, mais oui, mais Asensio.
Voilà, j'ai coupé finir et quoi.
Non, mais et pour derrière, en fait, c'est pareil. D'avoir des joueurs rapides quand tu joues haut, bah forcément que ce genre de profils vont t'aider. Si tu n'as pas le choix de composer avec Danilo Escriniar, bah c'est plus compliqué de jouer haut. Si tu peux compter sur des joueurs comme Kimpembe, comme Mukiele, comme Lucas Hernandez ou Marquinhos, bah forcément pour gérer ta profondeur, ça va être un peu plus facile. Donc quand tu perds un Asensio ou quand tu ne peux pas te jouer avec un Kanginli qui est au jeu d'Asie, bah évidemment que ça t'aide pas à jouer, que ce soit dans la transition ou dans un football de possession. C'est aussi des profils qui s'ajoutent en fait et ensemble font quelque chose de mieux. Alors après, oui, c'est une individualité, mais une individualité, est importante dans un collectif. Voilà.
Mais je ne dis pas le contraire, c'est juste que tu te projettes sur cette individualité. Tu es en train de dire Asensio, ça va être ça, et puis si tu fais ça, tu as la solution. Le seul problème, c'est que tu es en train de construire une solution avec un joueur qui, sur une saison, n'a pas montré par le passé qu'il était fiable sur l'intégralité d'une saison, et tu es en train de construire un collectif sur un joueur donc, qui, a priori, ne sera pas fiable sur une saison sans solution de remplacement.
Mais tu sais que c'est un joueur qui sait faire des passes
vers l'avant, on les a pas.
Pas faire les autres déjà.
Mais je ne dis pas le contraire, je dis juste que ce que tu dis, c'est sujet à une toute petite période et ça peut pas être une réponse et qu'il va falloir que tu aies une réponse sur la saison.
Bien sûr, mais là bon. Je fais avec les solutions qu'on a et pour l'instant ce qu'on a c'est ça pour moi qu'on a de mieux et quand tu les as, bah il faut les mettre.
Bon, on va avancer les gars, je suis d'accord avec vous que le retour de Kanginli et Asensio vont nous permettre de mieux jouer dans un 4-3-3 au moment de transition. Mais là on a une info comme quoi le Paris Saint-Germain recrutera un latéral gauche cet hiver. Vous pensez à qui? Parce que moi, j'ai pas forcément d'idée. J'ai vu qu'il y a un Nantais qui avait été
proposé au
Paris Saint-Germain. Ouais, j'ai vu que peut-être City serait sur lui aussi. On a vu que le Real cherche à se débarrasser de Ferland Mendy, mais bon, moi je trouve que c'est une terrible idée. Sur qui vous pensez que le Paris Saint-Germain va se diriger?
Si vous voulez, je commence. Premièrement, on a Mukiele déjà, qui pourrait dépanner et qui est bon. Surtout dans un système, on va dire, asymétrique où tu as un Hakimi qui est beaucoup plus haut, c'est bien d'avoir une assurance un peu plus derrière. Donc Mukiele pourrait dépanner. Ensuite, on a Serif Naga qui a fait des bons matchs de préparation. Donc pourquoi pas lui faire confiance si on veut un profil un peu plus offensif. Personnellement, je demande à voir. Maintenant, c'est bien beau, mais il y avait un Grimaldo qui était. On avait un Grimaldo qui était libre cet été et qu'on n'est pas allé chercher et qui aujourd'hui fait le bonheur de Xabi Alonso à Leverkusen. Donc on a encore eu le nez creux et aujourd'hui, on doit encore faire dans la précipitation. Il nous manque un latéral gauche, comme si on s'en doutait pas, comme si on savait pas que Nuno Mendes était déjà fragile, même si à ce moment-là il n'avait pas eu ce signal où on devait l'opérer. Maintenant, si tu dois aller chercher quelqu'un, ça va être compliqué parce que les joueurs sont très chers. Et les joueurs sont titulaires dans leur club. Aujourd'hui, qui tu peux avoir de disponible à gauche? Soit tu as un prospect comme Quentin Merlin ou un joueur un peu plus jeune en Ligue 1, de quasiment le même âge, tu as Adrien Truffert, je crois. Mais sinon, des joueurs, on va dire, qui peuvent t'apporter quelque chose tout de suite et qui ont de l'expérience, à part Chilwell, je crois, et Malassia, par exemple, tu as très, très peu de joueurs de latéral gauche sur le banc, de latéral gauche sur le banc. Tu as Guerrero aussi, je crois qu'il ne joue pas trop avec le Bayern. Mais c'est compliqué, c'est un marché délicat et des doublures de bon niveau, t'en as pas beaucoup. Là, je vois passer Federico Di Marco, évidemment, mais Di Marco, c'est un crack. Di Marco, il est titulaire à l'Inter et je vois pas pourquoi il viendrait au PSG. Donc c'est bien de rêver, mais Davis, oui, mais c'est bien de rêver. Mais bon, aller chercher un joueur en plein mercato d'hiver pour en prendre un en plus à l'Inter qui est titulaire, non, c'est impossible, c'est impossible.
Dryas et Basto, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, je vais vous rajouter à la question. On parle beaucoup de la relation technique Hakimi et Dembélé. Est-ce que pour résoudre ce problème, vous ne pensez pas que la relation Hakimi-Mbappé peut être tout aussi forte, voire un peu plus décisive? Et du coup, à droite, on a comme solution Mukiele, par exemple, qui pourrait être titulaire et du coup serait le défenseur qui resterait derrière. Et du coup, on pourrait avoir Lucas Hernandez qui repasse dans l'axe avec peut-être Marquinhos ou Skriniar.
Tu voulais dire Nuno Mbappé?
Non, Hakimi à gauche. Hakimi
à gauche.
Hakimi à gauche. Est-ce qu'il serait aussi bon? On a un Hakimi qui a complètement plongé, mercredi. C'est pas que de sa faute, mais qui a quand même plongé. C'est pour moi le match de mercredi a été le match qui a peut-être mis en échec le plan de Henrique avec sa manière avec laquelle il veut jouer les ailes. On a, pour aller dans le sens de ce que disait Rekoba tout à l'heure, on a, si tu veux exploiter la relation avec Mbappé, on a déjà un Kanginli avec une vraie complémentarité qui commence à poindre entre les deux joueurs. En soi, ouais, tu pourrais retourner le problème de l'autre côté en espérant que cette fois ça passe. Peut-être. J'ai pas de réponse plus avant que ça.
Basto.
Le pire, c'est qu'on pourrait avoir des solutions si on arrêtait ce système hybride. Et par exemple, quand on faisait une vraie défense à 3, tu pourrais penser à un Barcola piston gauche. Enfin, tu pourrais avoir des solutions. Mais ce n'est pas le cas. On sait que Henrique va continuer, il nous l'a redit hier là-dedans. Donc, évidemment, vu que Nuno ne revient pas minimum avant février, c'est-à-dire sûrement qu'il ne revient pas avant avril, sûrement du coup toute la saison on ne comptera pas sur lui parce que le temps qu'il revienne ensuite de son opération et qu'il retrouve son niveau, ça va être compliqué. Effectivement, il faut un arrière gauche. Maintenant, tu vas pas recruter un mec à 40-50 millions puisque je pense que Nuno reste le titulaire pour l'année prochaine. Donc il faut aller trouver une solution de remplacement. Une solution de remplacement, ça va être soit des joueurs disponibles en prêt qui jouent pas forcément, soit des joueurs dans des championnats, peut-être genre un, c'est l'espèce de serpent de mer depuis 10 ans, le José Gaya de Valence là, dont on parle, même si bon, il n'a plus le même niveau et les espoirs qu'on avait placés en lui il y a 5-6 ans n'ont pas été confirmés, mais peut-être qu'il vaut 5-10 millions, donc à ce prix-là c'est peut-être une solution. Quentin Merlin aussi, ça va dans le projet pro-français que veut le club. Maintenant, est-ce que Merlin va venir en sachant que Nuno reviendra de blessure? C'est pas donné non plus, donc ça va être à compose de jouer. Et un commentaire disait qu'il prospectait en Amérique du Sud, c'est peut-être une solution, hein, aller chercher un Argentin qu'on connaît pas forcément, mais qui accepterait d'être doublure et progresser au club, et qui ne coûterait pas le cher.
J'espère que tu avais fini sur coûterait pas cher, parce que j'ai mal lancé mon timing. Très bien, je commence à m'améliorer alors. On va parler de M. Ugarte. Les gars, est-ce qu'on est face à une enflammade comme on a fait avec Vitinha la saison précédente, ou est-ce qu'on est avec un joueur qui, à mon avis, moi je pense que le problème actuellement, c'est que si on va regarder les stats physiques, je pense avec les machines, etc., que le club y fait, Ugarte doit être physiquement avoir des stats très mauvaises en ce moment. Et la question, c'est est-ce que ce joueur, sans sa forme physique optimale, n'est pas un joueur quelconque? Parce que au final, l'avantage de Ugarte, c'est sa forme physique, c'est son agressivité, c'est comment il récupère tous les ballons, il court partout comme un chien affamé. S'il n'a pas ça, est-ce que c'est pas un joueur lambda? Vas-y, Reco.
Non, je pense qu'on est sur un joueur, comme tu as dit, comme Vitinha. En fait, c'est un jeune joueur qui arrive du Portugal, qui est pour la première fois dans un grand club, qui joue le top Ligue des Champions, même si cette année, c'est la transition. Mais voilà, il a changé de dimension, comme j'ai vu là dans un commentaire juste au-dessus. Et pour moi, bah, il doit digérer ça. Il est jeune, c'est pas évident. Tu dois t'acclimater à la ville, aux coéquipiers, au système de jeu. Tu as un nouvel entraîneur aussi. Ouais, c'est pas évident. Donc il fait des bons matchs parce que c'est un top joueur. Et derrière, bah, ça arrive d'avoir quelques passages à vide, d'avoir du moins bien. Également, il faut le noter quand même, il a des déplacements avec la sélection qui ne sont pas évidents. Il doit jouer au fin fond de l'Amérique du Sud. Donc forcément, ça fatigue. Il a été très utilisé par Luis Enrique en sélection aussi. Même s'il peut souffler de temps en temps, c'est pas évident. Donc pour moi, on est tout simplement sur la première saison d'un jeune joueur qui est transféré dans un top club et qui a besoin d'acclimatation. Et forcément, et ben, il y a des matchs où il va passer un peu au travers. Face au Milan, ça a été le cas. Mais petit à petit, il va gagner en régularité et tout se passera bien.
Bon, Bastou, t'as fini tout à l'heure, donc vas-y.
Moi oui. Non, je pense que ça fait partie des joueurs. C'est pas le même profil, mais un Kanté, par exemple, il avait besoin de se sentir bien physiquement pour performer. Ça fait partie de cette casse de joueurs. Ugarte doit se sentir bien physiquement pour performer. Maintenant, en fait, ce qui nous avait étonné avec Ugarte, au-delà de son harcèlement, de ses récupérations hautes, etc., c'était notamment son jeu au pied, qui nous a peut-être trop impressionné en début de saison par rapport à ce qu'il est vraiment capable de faire. Donc, on attend toujours maintenant qu'il nous fasse des transversales faux pieds, comme il avait fait contre l'OM, etc., etc. Mais c'était peut-être une petite surchauffe, et c'est surtout qu'il était un peu mieux accompagné peut-être par les joueurs devant. Le problème d'Ugarte, c'est qu'il devrait avoir des milieux qui sont des techniciens par la passe et la créativité devant lui. Et pour le moment, il a Emery qui lui, est plus quelqu'un qui performe balle au pied qu'un vrai passeur, même s'il fait des belles passes dès qu'il est aux abords de la surface, mais c'est plus des petites passes lobées que des vraies passes qui cassent deux, trois lignes. On a un Vitinha qui reçoit beaucoup de ballons dos au but, qui est obligé de se retourner sur l'aile pour ensuite se recentrer dans le cœur du jeu. Donc voilà, si Ugarte avait un Pedri, un Xavi, un Iniesta, etc. devant lui, ce serait déjà plus facile. Là, il est un peu surresponsabilisé, du coup, puisqu'on lui demande de faire le travail défensif, et en plus, la relance, alors que la relance, il devrait être le troisième larron. Et donc, forcément, ça complique la chose. Maintenant, même défensivement, on voit qu'Ugarte a du mal en ce moment, et ça, oui, c'est physique, je pense. On espère que ça va vite passer.
Monsieur Darius.
Bah, le souci, en fait, c'est qu'Ugarte se distingue. Alors après, oui, il fait beaucoup d'appels, mais bah, beaucoup d'appels défensifs, je veux dire. Enfin, c'est pas le bon mot, mais je vois ce que je veux dire. il fait beaucoup de courses préventives, en fait. Mais c'est quel mot pour qualifier ça. Mais c'est un joueur qui brillait surtout par sa capacité à être là où sera l'action. C'est sa lecture du jeu adverse et sa lecture, son anticipation par rapport au truc à venir. Et là-dessus, c'est pas physique, en fait. Et pour l'instant, il l'a complètement perdu. Alors après, sur le match de cette semaine en Ligue des Champions, on peut parler de sa performance cataclysmique, mais il faut aussi parler du fait qu'il n'a pas été démassédé, en tout cas au niveau récupération, par les joueurs qui l'accompagnaient. Il s'est un peu retrouvé esselé. Donc, est-ce que ceci explique cela et qu'il fait partie d'un tout et qu'il a besoin du harcèlement des autres pour pouvoir performer là-dessus? Peut-être. Donc, peut-être physique, mais je pense qu'il y a aussi une dimension. Il n'y a pas qu'une dimension physique. Il y a aussi une dimension mentale, je pense. Je sais pas. Je suis pas vraiment capable de la qualifier sur cette capacité justement d'anticipation. Elle s'explique peut-être par le reste du collectif ou elle s'explique par lui. Je suis trop tôt, en fait, pour pouvoir vraiment le dire. Maintenant, sur jeu au pied, par rapport à ce que disait Basto, moi, c'est pas vraiment là-dessus que je l'attends. C'est tant mieux s'il a ça en plus. Mais c'est le Ugarte qui est capable de faire des récupérations qui sont très hautes, qui sont très incisives, Et celui-là, il nous fait vraiment défaut. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Bah, comme tu le dis, il y a la piste physique, mais il y a aussi la piste comment est-ce que jouent les autres. Et il y a la piste mentale qui existe parce que son jeu n'est pas que basé sur le physique, son jeu défensif.
Ce qui n'est pas évident aussi, c'est que c'est une nouvelle équipe et c'est un nouveau joueur. Et quand tu es un nouveau joueur, ce n'est pas évident d'arriver dans une nouvelle équipe qui change tout. Et quand on regarde au final cette équipe-là, qui est en difficulté dans cette équipe? Le 9, le 8-10 et le 6. C'est trois postes qui sont prépondérants dans une équipe, c'est une colonne vertébrale et c'est là où tout se passe, c'est au milieu de terrain, c'est là où c'est le plus compliqué, le plus délicat. Et les trois postes qui sont en difficulté et où on se cherche des réponses, après, hormis la défense centrale, évidemment, la charnière, bah, c'est ces postes-là et c'est pas anodin au final.
Et pour aller dans ton sens, donc Garté, c'est même plus que ça. Il s'est retrouvé avec l'étiquette du sauveur. C'est ouais, pas en fait, seulement. Non, mais si, on est à coup.
Non, 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 Didi, quoi, non.
Ah, j'ai pas vu ce qu'il avait dit. Mais en gros, tout à coup, on s'est retrouvé à c'est bon, on a une réponse au milieu là où on n'en avait pas pendant très longtemps, etc. etc. Et je pense qu'au niveau mental, c'est à digérer ça.
Ok, les gars. Pour le dernier sujet, parce qu'on est déjà à 55 minutes, on va essayer un autre format où je ne vais pas vous dire chacun votre tour, c'est à qui de parler. Alors, on va essayer de voir si vous êtes assez mature pour avoir un débat tranquillement, sans qu'il y ait de brouhaha. Donc, la question, c'est Lucho. Il a l'air d'être un très, très grand fan de Ousmane Dembélé, tout comme Xavi l'était. Et quand il parle de Dembélé, il a des étoiles dans les yeux. Chose que certaines personnes comprennent et que d'autres ne comprennent pas. Dommage, Tonton, il n'est pas là, mais dans la semaine, on a eu droit à un débat Basto versus Tonton sur Ousmane Dembélé, le côté positif et le côté négatif. Donc là, il n'y aura que Basto pour ce côté-là. Je ne sais pas si Recoba ou Dryas prendra l'autre côté. Mais à quel moment le ratio de Dembélé qui crée du déséquilibre et qui crée du danger versus tout le déchet qu'il a, pour vous, à quel moment ce ratio est en sa faveur ou en sa défaveur? Est-ce que pour l'instant, vous jugez que ce qui crée annule tout le déchet qu'il a, ou est-ce que tout le déchet qu'il a actuellement annule tout le danger qu'il crée auparavant? Je vous laisse avec cette question.
Bah moi, je veux juste bien commencer vite fait parce qu'en fait, je dois y aller. J'ai un paddle là, il faut que j'aille mettre une branlée. Mais si je peux répondre rapidement sur Dembélé, je pense que Drias s'occupera de le démonter. Mais en fait, c'est simplement le positif, c'est une balance de positif et de négatif. Et à un moment donné, à partir du moment où dans un match, il aura du déchet comme d'habitude, mais qu'il arrive à faire une ou deux passes dé ou un ou deux buts, forcément, il aura fait un bon match. Face au Milan, c'était encore comme d'habitude très compliqué, mais c'était le seul qui apportait du danger. Donc, on s'est dit, bon, au final, c'est un bon match d'Ousmane. Mais malheureusement, c'est pas assez souvent. Et dans les stats aussi, c'est important. Même si c'est un joueur qui te fait des déclenchements un peu plus bas sur le terrain et qui t'emmène des actions, et au final, c'est plus un joueur qui sera à l'avant-dernière passe, pour moi, il doit apporter un peu plus. Bref, je vous laisse débattre du coup, les amis.
Ah, ce sera peut-être plus sympa de... Vas-y, Réco, ciao. Bon, qui reprend? Qui a des choses à dire là-dessus?
Vas-y, Dryas, prends la main.
C'est Dembélé. Alors après, il y a le contre-argument qui est Recoba. On met Recoba de côté, on oublie qu'il y a Recoba. En fait, Dembélé, t'en as besoin tant que les autres performent pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Oui, moi, j'oscille entre frustration et agacement avec lui. Et si c'est frustration, faut qu'il aille sur le banc. Si c'est agacement, tu acceptes et puis voilà. Mais c'est un des seuls joueurs à créer et à créer. Enfin, si on prend Mbappé crée aussi, mais mine de rien, ça se termine plus souvent par des frappes avec Dembélé. Ça se termine plus souvent par des passes avec Dembélé. Donc la différence, c'est un des joueurs qui fait le plus de différence positive pour Paris Saint-Germain, même s'il rate énormément. Alors moi, il me fait péter un câble, mais qu'en est-il des autres? Qu'est-ce que font les autres? C'est par rapport à l'apport des autres qu'il faut se situer. Et si tu mets Recoba sur le terrain, est-ce que vraiment ça met Dembélé en dehors du terrain? J'en suis pas sûr. Il m'a traumatisé sur un truc.
Non, mais après, il faut déjà le tester. Tu vois Lee à droite qui fait des différences quand Dembélé a été reposé, les matchs où il a pu jouer titulaire avec deux buts sur les couvrettes. Tu vois Barcola qui fait des bonnes rentrées régulièrement, et donc pourquoi ne pas le tester dans un match des champions directement? Et t'as Kolo Muani qui n'est utilisé qu'en neuf et qu'on n'utilise jamais sur l'aile droite, alors que c'est son positionnement de base. Donc pour savoir si les autres peuvent le concurrencer, il faut déjà les faire jouer dans un gros match. Dembélé joue tout, Dembélé a été reposé que contre Brest, et où il fait une rentrée catastrophique, et contre Strasbourg, il fait une rentrée encore plus catastrophique. Ça peut empêcher l'équipe de marquer 6 buts en 2 matchs. Dembélé, le problème, c'est comme je parlais à Tonton dans le groupe, c'est une question différentielle. Tu as le droit d'avoir du déchet, mais pas un certain niveau. Là, il fait une différence pour 3 mauvais choix. Et je ne parle pas qu'en finition. Son contrôle raté à la 93e contre Milan, c'est pas possible à ce niveau-là. C'est souvent dans les moments clés en plus. Son mauvais choix contre Nice où l'oubli Ramos face au but. Donc voilà, c'est un échange de. Des fois, il fait des centres, mais qui vont derrière le but. On dirait la technique de Matuidi alors qu'il vient de dribbler 4 mecs. Tu as le droit de rater des face-à-face, de rater des buts. Mais si tu rajoutes les contrôles ratés au moment où il ne faut pas, les mauvais choix, etc., etc., je trouve que là, la balance, elle est dans le négatif, même si 80% de ce qu'il faut faire dans l'action est bien. 3 fois sur 4, le dernier geste, c'est un mauvais choix ou une erreur technique, et ce n'est pas possible. Moi, je m'énervais déjà sur un Di Maria à l'époque, qui pourtant avait une balance beaucoup plus haute quand on regarde tous les gestes décisifs qu'il pouvait faire. Donc, je pouvais pas être sévère avec un Di Maria et être Dembélé. Non, pour le moment, c'est insuffisant.
J'aimerais bien être le tonton dans l'histoire, parce que tonton, il n'est pas là, je veux parler en son nom. Pour créer un peu de débat, parce que vous avez l'air un peu plus d'accord que Basto et Tonton. Tonton, il nous dit que on est sévère avec Dembélé, mais si on regarde bien tout ce qu'il a créé depuis le début de saison, normalement, il est censé être à quasiment 10 passes décisives. Et quand tu vois, tu fais un zoom sur la passe qu'il fait à Mbappé à Milan, elle est exceptionnelle, cette passe. C'est une passe où, entre guillemets, tout est figé. Et le mec, il traite ça de son chapeau. Et au final, tu as Mbappé qui le rate. Tu as un moment où il te fait une passe à. Enfin, sur plusieurs matchs avant, il te fait une passe à Ramos. Mais quasi tout seul, Ramos, il rate. Mbappé lui a envoyé 10 millions de caviar, il a raté. Est-ce que Dembélé ne paie pas aussi le manque d'efficacité des attaquants du Paris Saint-Germain? Parce que contre Milan, on a perdu, mais on a eu des occasions, on aurait pu gagner ce match.
La dernière phrase, je sais pas. Mais pour juste revenir vite fait à ce que disait Basto, la grande différence entre Dembélé et Di Maria, c'est le nombre d'occasions créées par Dembélé par rapport au nombre d'occasions créées par Di Maria. Il en crée 10 fois plus. Il en rate beaucoup plus, voilà. Mais il en crée 10 fois plus. Et tu peux pas les mettre sur le même plan. Après, on n'était pas du tout en train de dire la même chose, Nick, je sais pas. Enfin, peut-être. Enfin, c'est compliqué pour moi aujourd'hui. Non, sérieusement, j'en reparlerai après. Est-ce qu'on peut justifier les ratés de Dembélé par rapport aux ratés des autres? Comme toujours, en fait. Là-dessus, oui, comme toujours. C'était presque l'arlésienne de ce live. C'est qui de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est l'individualité ou est-ce que c'est la collectivité? Le collectif est dépendant des individus et les individus sont dépendants des collectifs. Et tu n'auras jamais, c'est comme les débats avec Rapierre Pastore qui aurait été à 150 passes décisives sur une saison. C'est toujours comme ça. Et surtout pour un joueur offensif. Est-ce que tu vois, si tu veux vraiment te faire un avis dessus, faut regarder est-ce que les différences sont si claires que ça, est-ce que les ouvertures créées sont si simples que ça, et quel est le nombre qu'il en fait. Il en fait sans doute pas assez. Maintenant, moi je trouve que on n'a pas forcément mieux. Je suis d'accord avec Basto. Ce qui fait bugger ce point de vue pour moi, c'est vraiment Barcola. C'est faut tester un petit peu plus Barcola. Mais Barcola, c'est un jeune joueur. Est-ce que tu veux partir titulaire avec lui tous les matchs? Je sais pas. Et donc je pense que pour l'instant, on doit rester au moins pour partir avec Dembélé.
Non, mais on ne parle pas de bencher Dembélé. On demande de le mettre en concurrence, ne serait-ce qu'un match, un gros match. Et pour le moment, c'est vrai qu'Enrique n'aime pas trop faire jouer la concurrence, à part pour faire souffler des joueurs dans des matchs en bois.
Sur Benché, je pense qu'on sera tous vite d'accord. En fait. Pas sur Benché, justement, mais sur le fait de faire tourner, on sera tous vite d'accord.
Après, pour mettre une pièce à la tonton, Barcola, je l'aime beaucoup. Franchement, j'aimerais le voir plus jouer au Paris Saint-Germain. Mais son entrée, elle est à l'image d'Ousmane Dembélé. Je suis désolé. Barcola, quand il est rentré, il a emmené beaucoup de dangers. Genre, c'est un contre un, il les a quasi tous gagnés. Et finalement, quand il arrivait, son dernier centre, il était au troisième poteau. Ou en fait, son dernier choix, il n'était pas bon non plus. Donc au final, est-ce qu'on n'est pas criblé de joueurs qui, ça ramène le problème à l'efficacité. On a des joueurs qui ne sont pas efficaces. Peu importe que ça soit Dembélé, Kylian Mbappé qui rate de face à face, Colomani qui rate ses contrôles, Ramos qu'on ne peut pas trouver. Moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup.
Après Dembélé, c'est une continuité sur plusieurs années. Barcola, c'était un des joueurs, que ce soit en équipe de France Espoir ou à Lyon, même si ce n'est pas le même contexte, qui est un des joueurs offensifs à son poste, qui est un des plus décisifs justement en termes de peu de passes décisives, buts, enfin, etc. C'est un des joueurs les plus décisifs à son poste. Donc, faut peut-être lui donner la confiance, le faire titulariser deux matchs de suite et dans un gros match, peut-être contre Newcastle ou je ne sais rien, mais c'est encore tôt effectivement pour Barcola. On n'attend pas que ce soit un taulier, mais le fait qu'on se pose la question, est-ce que ça doit être déjà en concurrence avec Dembélé, ça montre qu'il y a un problème Dembélé. De base, il ne devrait même pas y avoir de débat.
D'accord, peut-être qu'il n'y a pas de débat Dembélé et Barcola, mais Adria, je te laisse rebondir là-dessus. Il y a OK qui nous dit peut-être qu'il y a, il y a débat Dembélé.
Ben, moi, Lee, je l'aime bien libre en fait. Et c'est tout bête, mais dans le système d'Enrique, il a besoin d'avoir des ailiers qui collent les lignes. Et ça me ferait chier d'avoir Lee qui colle la ligne, et surtout la ligne opposée à celle de Mbappé, parce qu'on a, comme je disais, tu as une super entente qui apparaît entre les deux joueurs. Moi, je rêve d'un monde où tu as un Lee qui est 10, qui a tendance un peu peut-être à s'excentrer sur la gauche, avec un Mbappé qui est à gauche, et avec derrière eux un Nuno Mendes. Et je pense que là, tu as un côté gauche qui fait mal à la tête à énormément d'équipes, parce que ces trois-là peuvent s'entendre à merveille les uns avec les autres. Et je n'ai pas envie de partir sur un match où je vais mettre Lee complètement de l'autre côté et lui demander de coller la ligne. Surtout qu'on a Mbappé qui est assez libre, et donc c'est encore plus important que la personne qui soit à droite. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez cliché quand on regarde les matchs, où on a vraiment Dembélé qui colle la ligne. Alors, pas tout le match, mais qui a une tendance à vraiment la coller. Et pour moi, ce serait du spew de mettre Lee à cet endroit-là.
Ok, je veux juste voir s'il y a des questions. Après, on va vous laisser. Il y a juste Bradley Deboli qui nous a posé plein de questions. Il nous l'a répété plusieurs fois. Et du coup, on est en train de parler, on n'a pas pu y répondre. Il y a deux questions, je vous laisse chacun une, et puis après on va y aller. Basto, vous voulez qui en défenseur central pour remplacer Marquinhos?
Dans l'effectif actuel ou l'année prochaine?
C'est pas sa question.
Ah, je crois que c'est pour l'année prochaine. Moi, je voulais, mais il est parti. Là. Moi, je veux j'ai pas de nom comme ça qui vienne, mais un défenseur relanceur qui aille dans le jeu de position de Enrique.
Ok, et Dryas, tu penses quoi d'un trio d'attaque Mbappé, Ramos, Asensio?
Je suis pas fan de jouer avec un pur neuf et un faux neuf en même temps. Surtout si tu as Mbappé qui est déjà un peu dans le rôle du faux neuf, enfin du neuf tu te retrouverais avec un neuf qui tourne autour du neuf, un neuf de pointe et un faux neuf. Ça fait beaucoup de monde dans l'axe, c'est pas assez de monde sur les côtés. Pour moi, tu mets Ramos, il faut faire sans Asensio. Et si tu mets Asensio, il faut faire sans Ramos.
Dryas dit qu'il a du mal aujourd'hui, mais il y a le début d'une bromance avec Mister Tenace. Ça a l'air d'avoir du bien aujourd'hui, pas du mal.
Non, mais bon, je redirai ce que j'aurais à dire.
Barcola, Lucas et Mukiele sur certains matchs. Putain, ça file les commentaires. Je trouve plus le commentaire, il est parti. Bah, les gars, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ici, c'est
petit big up à Panam J, qui ça fait 16 mois aujourd'hui.
16 mois que tu es membre de la chaîne Panam J, merci beaucoup, merci. toi, tu m'as vanné toute la journée, je te vanne aussi, mon gars. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah, n'oubliez pas qu'ici, c'est Paris. Likez, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, abonnez-vous partout. Ça nous aide. C'est un simple geste pour vous, mais c'est énormément pour le podcast. Donc, likez et abonnez-vous, les amis. Ciao. Et pronos ce soir.